dernière scène, le procès de Jésus, la crucifixion et la mort, et la mise au tombeau.
Voilà, Luc suit à grands traits les récits de Marc et Matthieu. Hein ? Je mets un micro. Voilà, ça va comme ça ? Comme ça, vous entendrez mieux. Vous entendez mieux ?
Oui.
C'est parce que j'ai le micro, probablement.
Oui.
Voilà. Allez, on va arrêter de faire les zouaves. C'est la technologie moderne. Alors, les quatre parties, ça va être simplement les quatre parties de notre cours. Vous voyez, je ne suis pas à la recherche d'un plan dialectique tout à fait sublime ou spirituel avec des contours compliqués. Hein, c'est vraiment une lecture toute simple du texte. Tout d'abord, la dernière scène. Alors, la première chose qui va être déterminante, qui va être de grande importance, c'est dès l'introduction, Saint-Luc signale que les événements de la Passion s'inscrivent dans le cadre de la Pâque juive. C'est un cadre, je parle d'un cadre parce que à certains moments, Saint-Luc insiste moins dessus et pourtant c'est bien ce qui va donner la tonalité théologique des événements qui vont se dérouler. Hein, il commence en disant « La fête des azimes, appelée la Pâque, approchée ». Je vous rappelle, hein, pour mémoire, vous savez bien, la fête des azimes, c'était une fête comme la fête de la Pâque, c'est une fête agricole. Hein, la fête de la Pâque, c'est une fête pastorale qui ont été fondues très tôt dans l'Ancien Testament. Hein, la fête des azimes, c'était la présentation des premières gerbes de la récolte. La Pâque, c'était l'offrande de l'agneau pour ceux qui étaient des pasteurs. Et ces deux fêtes agricoles qui célébraient le renouveau, c'est lié au printemps, eh bien, ont été relues dans une perspective historique, celle de la libération d'Égypte, également le thème de la nouveauté. Hein, donc Pâques, c'est vraiment, que ce soit les azimes, la Pâque, c'est-à-dire la mendication de l'agneau, ou la libération d'Égypte, c'est vraiment le thème de la nouveauté. Un Dieu qui renouvelle. Vous avez entendu hier à la messe ce très beau passage hein, d'Isaïe. « Voici que je vais faire des choses nouvelles, hein, ne les voyez-vous pas. Ne vous souvenez plus des choses du passé, le Seigneur va faire du nouveau. » Voilà. Ce cadre festif de la fête de Pâques qui nous dit à quel point Dieu est capable de renouveler ce qui pour nous semble ancien ou figé à tout jamais. C'est dans ce cadre festif que Jésus vient accomplir son exode à Jérusalem. Vous vous souvenez, pendant la transfiguration, le dialogue entre Jésus et Élie et Moïse, il parlait de l'exode qu'il allait accomplir à Jérusalem. C'est intéressant, quand on fait l'étude synoptique des évangiles, ce qu'on appelle l'étude synoptique, vous savez, c'est vous faites trois colonnes, vous mettez les textes les uns à côté des autres. La première chose que vous voyez, c'est qu'ils sont très proches. Et la deuxième chose que vous voyez, c'est qu'il y a des différences. Et que ces différences sont signifiantes. Vous remarquez que, je vous ai donné l'exemple, par exemple, quand on parle du baptême de Jésus, Luc est le seul à dire « Jésus était en prière ». Donc, insistance de la prière chez Luc. La transfiguration, il y a un petit détail qui est propre à Luc, il parlait de l'exode qu'il allait accomplir à Jérusalem. Or, c'est juste le moment où il nous est dit, Jésus a fermé son visage vers Jérusalem. Oui, c'est toute cette thématique de cette finalité de Jérusalem qui est centrale dans l'évangile et ce thème d'exode qu'il allait accomplir à Jérusalem. Alors, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, exodos, la sortie, mais là, évidemment, ça va se préciser. Avec le thème de l'Exode, la Pâque juive qui se réfère aussi à l'Exode. Donc nous y sommes, hein, cet Exode va s'accomplir dans le cadre de la Pâque. Cadre festif, cadre de fête, la mémoire de la Pâque juive, mais aussi un contexte dramatique. Dès le départ, on est avec cette ambiance un peu lourde. Il ne faut pas hésiter à mettre l'évangile, j'allais dire, en image ou mettre les personnages en situation. Hein. Vous savez, dans les films, hein, il y a des scènes qui se suivent, c'est très bien. Puis à un moment, hein, changement de la caméra change et on entend la musique un peu, vous savez, un peu sombre comme ça, qui nous annonce qu'il va se passer quelque chose d'un peu dramatique. Voilà. Quand au début de la scène de la Passion, on nous dit « Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le tuer. Hein, vous avez cette espèce de roulement de tambour, des violoncelles, qui a un son un peu sombre, voilà. Hein, il y a une espèce de, comme dans une symphonie, hein, on voit que quelque chose va se passer. Cadre festif, cadre dramatique. Hein, cadre dramatique aussi parce que Judas s'en alla les trouver pour conférer sur le moyen de leur livrer. Hein, il va trouver les grands prêtres pour voir comment livrer Jésus. Hein, donc, toutes les scènes vont se dérouler, c'est le cadre de la Pâque, mais c'est aussi déjà hein, cette musique qui nous prend et on se dit mais nous allons entrer dans un drame. Premier point, après cette longue introduction, premier point, Jésus manifeste à ses disciples ce que ce repas pascal a d'exceptionnel et d'unique. Hein, avant de le commencer avec eux, Jésus a des paroles très très fortes, propres à Saint Luc. Hein, j'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous. On voit l'aboutissement hein, de ce que Jésus avait exprimé au début de la montée à Jérusalem, que j'évoquais tout de suite. Il affermit son visage hein, avec une intention irrévocable. D'aller dans la ville sainte. Il avait, voilà, il portait en lui un désir, et bien ce désir, il exprime, c'est maintenant, hein, j'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous. Ce que Jésus visait, c'est comme je vous l'ai dit, l'exode qu'il allait accomplir à Jérusalem, et il en était habité profondément. Il le disait pendant pendant la montée vers Jérusalem, vous souvenez, c'était l'avant-dernière ou la dernière séance, hein, il s'est précédé par cette montée, et pendant cette montée à Jérusalem, hein, il y a eu ce moment où Jésus a dit « Je dois être baptisé d'un baptême, et combien je suis angoissé jusqu'à ce qu'il soit consommé. Hein, » vous avez vu le vocabulaire, le désir, j'ai désiré d'un grand désir, hein, « Je suis angoissé ». Ces termes renvoient au sentiment intérieur de Jésus. Saint Luc marque de façon assez forte quels sont les sentiments intérieurs de Jésus. Et ça, ce soir, nous allons beaucoup parler des sentiments intérieurs de Jésus, de l'attitude des différents protagonistes de la Passion. Et là, Luc nous dit que le moment arrive où l'heure fut venue. L'heure fut venue. Voilà, c'est une sorte de révélation sur cette intériorité de Jésus, une intériorité qui est habitée à la fois par un désir, mais en même temps une angoisse. Hein. Le mot hébreu pour l'angoisse, c'est un mot qui est très fort, un tsara en hébreu, ça veut dire, évidemment il y a l'idée de la peur, mais il y a l'idée de resserrer. Hein, quelqu'un, je ne sais pas quoi, qui avance dans un souterrain, puis ça se resserre, il entre dans un boyau, ben, on est angoissé. La gorge.
L'angoisse, ça veut dire la même chose. L'origine du mot angoissé, ça veut dire resserrer.
D'accord. Voilà. Je ne connaissais pas l'origine, mais c'est en tout cas l'hébreu a tout à fait cette signification. Donc Jésus va entrer dans ce passage étroit, mais qui est aussi l'objet de son désir. Deuxième point, Saint Luc est le seul à faire précéder le récit de l'institution d'une évocation du repas pascal juif, ce que l'on appelle le céder pascal. En fait, le céder, ça veut dire le rituel. Céder, ça veut dire l'ordre. Quand on dit parler avec quelqu'un, en hébreu, mashlamra, tov meod, kol beceder. Tout est en ordre. Voilà. Alors, céder, ça a voulu dire... céder, c'est le rituel. Ça désigne aussi le repas pascal. Ce repas était une liturgie, c'est pourquoi il y avait un rituel. Nous ne sommes pas tellement habitués à ça, même, j'allais dire, pas du tout, dans notre culture chrétienne. Pour nous, la liturgie est communautaire et est vécue essentiellement dans le cadre d'une église. Dans le judaïsme, la liturgie a un aspect caractère familial très marqué. Et petite parenthèse, première de la soirée, je vous ai dit déjà combien il était bon de nous tourner vers nos frères juifs. Nous avons beaucoup à recevoir d'eux, et notamment cette importance de la liturgie familiale, que malheureusement nous avons un peu oublié, mais que l'on a un petit peu gardé à travers le bénédicité. Et le repas pascal, la liturgie de la plus grande fête juive, la plus grande liturgie de la plus grande fête juive, elle se passe dans le cadre de la famille. Dieu entre dans les maisons de son peuple et Jésus, eh bien, va de façon familiale avec les apôtres vivre cette liturgie. Saint Luc n'en reprend que deux éléments, mais là on retrouve bien le sens de la concision propre à Luc, il ne raconte pas tout. Les deux éléments, c'est l'agneau pascal et la coupe de vin accompagnée d'une bénédiction. Alors tout d'abord, l'agneau pascal, qui est exprimé, il n'y a pas le mot agneau, mais il y a le mot Pâques, Pessar en hébreu. Manger la Pâque, ça veut dire manger l'agneau. Manger la Pâque, ça veut dire manger l'agneau. Habituellement dans le judaïsme, dans la Bible. Cette mendication de l'agneau est un élément central du repas pascal. La mendication, ça signifie la communion avec cet agneau qui a été sacrifié, qui est offert à Dieu. Et donc la communion va se réaliser autour de cet agneau. C'était une prescription donné par Dieu aux Israélites au moment de leur départ d'Égypte, Exode 12. Vous entendrez la lecture le jeudi saint, où on évoque cette prescription donnée par Dieu. Pour garder mémoire, Dieu donne des rites, et des rites dans lesquels la mendication a de l'importance. Je vais y revenir tout de suite. Le deuxième élément de ce repas, c'est la coupe de vin accompagnée d'une action de grâce. Il s'agit probablement de la troisième coupe, la Birkat Hamazon. Alors, nous n'avons pas le temps ce soir de décrire tout le rituel de la Pâque juive. Il y a quatre coupes de vin. C'est tellement rituel que, je vous rassure, il y en a qui disent, quatre coupes de vin, qu'est-ce qui se mettait? Puis c'était des grandes coupes, etc. Il y a un côté un peu formel. Donc, on remplit une coupe, on en prend un tout petit peu, puis on passe à son voisin. Il ne faut pas être dans l'idée que le but, c'est de manger. Le but, c'est d'abord d'accomplir les prescriptions de la loi. Voilà. Mais ce qui est intéressant, et c'est le troisième point que je veux aborder, et ça va être très très important pour nous, c'est que le récit de Saint-Luc, le récit de l'évangélique, marque une rupture. Il y a une rupture. Il y a la célébration de la Pâque, donc très clairement, Jésus a célébré la Pâque juive, d'après Saint-Luc, à l'issue de ces rites, la mendication de l'agneau et ce que l'on pense être la troisième coupe, eh bien, Jésus va prononcer des paroles qui ne sont pas contenues dans le rituel de la Pâque et même qui sont en décalage par rapport à ce qui vient d'être célébré. Après le repas, Jésus prend du pain et le donne aux disciples en disant « Ceci est mon corps, donné pour vous ». Puis il présente la coupe. « Cette coupe est la nouvelle alliance dans mon sang versé pour vous ». On peut noter que par rapport aux autres évangélistes, Marc et Matthieu, Saint-Luc ne rapporte pas la parole « Ceci est mon sang », le sang de l'Alliance, mais cette parole est évidemment sous-entendue quand Jésus parle de la nouvelle Alliance dans son sang. Ça suppose que ce qu'il présente, le vin, devient vraiment son sang. Cela veut dire que le rite que Jésus institue, ce n'est pas la Pâque de l'agneau, la Pâque avec l'agneau à laquelle il donnerait une nouvelle signification, c'est quelque chose de nouveau. Jésus prend du pain. Alors c'est vrai que dans le rituel de la Pâque, il y a le rite du pain matzah, si ça vous dit quelque chose, qui est un pain, le pain sans levain, qui fait partie du rite des azimes. Matzah, ça veut dire le pain qui est caché et que l'on cherche, qu'on va trouver. À table, il y a comme ça une nappe, il y a deux nappes, il y en a une qui arrive au milieu de la table et on cache le pain dessous, pour dire que c'est Israël doit chercher ce pain qui signifie la nouveauté, puisqu'il est sans levain. Voilà. Eh bien, Jésus va le détacher du repas et va dire ses paroles « Ceci est mon corps ». Il ne dit pas ses paroles, par exemple, sur l'agneau. Voilà. Il y a donc un décrochement. Et de la même manière, la coupe ne correspond pas à l'une des coupes du repas pascal. C'est donc dans le corps de Jésus et dans le sang de Jésus que l'alliance va être scellée. Deux gestes dont Jésus a l'initiative. Il y a donc bien une continuité, puisque Jésus reprend des éléments du rituel juif, mais il établit un rite nouveau. Et ce qui est important pour nous, c'est de comprendre que le contenu de ce rite se réfère à sa personne. Le contenu de ces rites se réfère surtout à sa personne. Jésus lui-même va, dans sa personne, célébrer la Pâque, célébrer la libération du peuple. Il assume pleinement cette Pâque juive, mais avec ce renouvellement, puisque désormais le rite qu'il va donner aux disciples va se référer pleinement à lui. Et là, j'en arrive au quatrième point qui est très important, c'est que le rite va se référer à un événement qui va se dérouler plus tard, le lendemain. Pendant le repas de Pâques, Jésus est déjà engagé dans cet acte de donation de lui-même qui s'accomplira le lendemain sur la croix. Vous voyez, à travers des rites qu'il donne aux disciples, quand il dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang », eh bien, il le vivra dans son corps, de façon existentielle, le lendemain. Je vous en avais, j'avais déjà parlé un petit peu dans ces termes-là à propos de l'évangile selon saint Matthieu. Ça, c'est commun aux trois synoptiques. Il y a une anticipation, mais qui n'est pas simplement une anticipation symbolique. Quand Jésus dit « ceci est mon corps et ceci est mon sang », il est déjà en train de se donner, de tout son être. Mais évidemment, cela s'accomplira pleinement dans sa chair quand il sera crucifié. Jésus se donnera en son corps. Quand il dit « ceci est mon corps », il désigne déjà son corps crucifié. « Ceci est mon sang », bien c'est bien le sang qui sera versé sur la croix. On peut dire aussi ce que Jésus fait ce soir-là, le soir de la scène, le soir du repas pascal, ce qu'il fait, j'allais dire, avec la liberté des moyens qu'il a encore, la parole, l'initiative. Eh bien, c'est ce qu'il fera au moment où il semblera être passif, conduit sur la croix. On a l'impression qu'il ne fait rien d'autre que de se laisser conduire. Il subit la passion. En réalité, tout cela, il l'a anticipé et il a déjà posé l'acte libre par lequel il se donne en disant « ceci est mon corps et ceci est mon sang ». Il faut vraiment voir le lien entre les deux. C'est le père Bouillet qui insiste beaucoup dessus. L'Eucharistie, substantiellement, c'est déjà le Vendredi Saint, et en réalité, c'est aussi la résurrection. Mais tout est déjà contenu dans le geste que Jésus accomplit ce soir-là. Le tout est dans la partie, pour reprendre l'expression du cardinal von Balthasar, das Ganze in Fragment, le tout dans la partie. La partie, c'est le rite qui semble limité, mais ce qui se passe pendant le repas n'est pas qu'un élément qui serait détaché du reste. Et Saint-Luc est précis dans son vocabulaire, il parle d'une action de grâce. Jésus accomplit les gestes dans une action de grâce. Saint Luc est le seul à reprendre ce terme d'action de grâce. En fait, on le trouve chez Matthieu et Marc, mais à propos du pain, Jésus, il est dit que Jésus rend grâce. C'est le seul terme que Saint Luc emploie. Il n'emploie pas le terme de bénir qu'on a, qui est plus traditionnel dans le judaïsme, eulogéo. La beraka dans le judaïsme, qui est très importante dans le rituel juif. Là, il y a une nouveauté. Eucharisto, d'ailleurs, n'est pas un terme utilisé dans l'Ancien Testament. Je crois même que le terme est absent dans l'Ancien Testament. En tout cas, on ne le voit pas pour traduire les textes liturgiques juifs. Eucharisto, c'est vraiment une nouveauté de Saint-Luc. Eucharisto, eu, ça veut dire, c'est ce qui est bon. Charisto, le charisme. La grâce, une bonne grâce, rendre grâce. Dans le Nouveau Testament, Eucharisto peut reprendre le terme de bénir, mais il y a quelque chose de plus vertical, cette offrande à Dieu. Eh bien, Jésus rend grâce. L'acte de Jésus qui s'accomplit le Jeudi Saint, c'est une action de grâce. À travers ces termes, Saint Luc nous montre que tout ce qui va s'accomplir pendant le repas pascal, sur la croix, et jusqu'à la résurrection, c'est une action de grâce. C'est pourquoi la liturgie chrétienne a conservé ce terme de Eucharistie pour désigner le sacrement de l'Alliance nouvelle. Vous voyez comment, à travers son vocabulaire, à travers sa manière de composer le récit, saint Luc nous fait entrer dans les dispositions de Jésus au moment où il sera crucifié. C'est très très important ça. On ne peut pas comprendre la croix si on n'a pas en tête ce qui se passe pendant le repas pascal. On ne peut pas dissocier les deux. C'est très très important. On a quelquefois une vision de la croix qui est un peu brutale et immédiate. Évidemment, sur la croix, on ne voit que l'horreur, on ne voit que ce drame atroce et qui est là. Saint Luc insiste peu sur ce caractère atroce des souffrances de la croix. Non pas que Jésus n'ait pas souffert, mais c'est pas ça qui intéresse Saint Luc. Et je pense que profondément, si nous pouvons dire en effet, notre Sauveur a terriblement souffert par amour pour nous et nous pleurons sur ses souffrances et nous y sommes sensibles, Jésus a plus que cela à nous dire. C'est un peu la critique que je fais au film La Passion de Mel Gibson. Ça a été de dire, regardez, c'est la souffrance. Et de fait, il a souffert plus que n'importe qui. Personne n'a autant souffert que Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus est l'innocent. Un petit enfant, on voit bien comment un enfant est beaucoup plus sensible à la souffrance que nous les adultes, parce que nous les adultes, par expérience, nous savons que le mal, on a appris à nous compromettre un peu avec lui. Enfin, je veux dire, on joue avec le mal. Mais l'innocence parfaite pour un enfant souffre. Jésus, je crois qu'il a l'innocence de l'enfant. Donc évidemment, la souffrance de Jésus sur la croix, elle est immense, puisqu'il est le pur par excellence. Pourtant, au moment où les femmes de Jérusalem pleurent sur lui, Jésus dit, c'est pas ça. Ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur, si on traite ainsi l'arbre vert, qu'adviendra-t-il du bois sec. Alors saint Luc nous dit, il y a cette couche de souffrance terrible qui va prendre Jésus, mais l'évangile de saint Luc va nous dire quelque chose de beaucoup plus profond dans le cœur de Jésus, au-delà de cette souffrance, c'est cette donation de lui-même dans l'amour, dans cette Eucharistie. Cette prière, Jésus fait de sa mort une prière qui va assumer, qui va consumer la souffrance et la mort, comme ça qu'il va vaincre. Mais la liberté du cœur de Jésus, vous voyez, je crois qu'il faut revenir vraiment à la source et saint Luc nous aide à revenir à la source. D'ailleurs, on le verra dans le récit de la Passion, on va le voir tout à l'heure, saint Luc parle très peu des souffrances et des humiliations, il parle de l'attitude de prière de Jésus. À deux reprises, on voit Jésus s'adresser à son Père, « Père », voilà, attitude de prière et d'intercession. « Pardonne-leur, tu seras avec moi dans le paradis. » Vous voyez ce que j'ai, on aura peut-être le temps de reprendre cela à la fin. Voilà. Alors évidemment, cette action de grâce dont j'ai parlé, qui englobe la croix, la souffrance de la croix, cette action de grâce sera célébrée à chaque fois que sera réitéré le rite nouveau institué par Jésus. Comme Jésus demande explicitement de le faire. Faites cela en mémoire de moi. Quelle est l'origine de l'Eucharistie? Quelle est l'origine du sacerdoce? Les deux, ça va ensemble. C'est la parole de Jésus. Faites cela en mémoire de moi. Faites cela, eh bien, ça se rapporte aux gestes qu'il accomplit et aux paroles qu'il prononce. Il s'agit de renouveler en mémoire de Jésus, eis anamnésin, ça a donné anamnèse, de renouveler ces gestes en mémoire de lui. Mais voyez, à travers ce touto en grec, vous ferez cela, c'est tout le mystère pascal qui est contenu. C'est pour ça qu'on dit « nous rappelons ta mort, nous célébrons ta résurrection ». Cette idée de la mémoire où on réitère les actes posés par Dieu, qu'on avait cette même signification en Exode 12, « manger l'agneau pascal en mémoire de la libération d'Égypte ». C'est cela la fonction de la liturgie. Dans la célébration de la Pâque juive, comme dans la célébration de l'Eucharistie, il s'agit de rendre les participants contemporains de l'acte salutaire de Dieu. Hein, vous connaissez dans le rituel juif, hein, vous connaissez cette belle tradition, quand les juifs célèbrent la Pâque, quand ils célèbrent Pessah, hein, ils ont cette très belle formule, cette nuit, Dieu nous a libérés d'Égypte. Et ils le croient, dur comme fer, parce que c'est vrai, parce que Dieu les a libérés d'Égypte. C'est quelque chose de sacramentel. Combien plus les chrétiens, dans la nuit pascale, nous pourrons dire, cette nuit, Dieu nous a libérés du péché par notre baptême. Il y a une actualité, et c'est le propre de la liturgie, chaque fois que nous célébrons la messe, eh bien Jésus, le sacrifice de Jésus est rendu présent, hein, et opérant, et fécond par la célébration de la messe de l'Eucharistie. Voilà. Deuxième gros morceau, le troisième et quatrième seront plus rapides. Le deuxième gros morceau, c'est l'arrestation et le procès. L'ordre du récit de Saint-Luc n'est pas exactement celui de Marc et Matthieu. Il n'y a pas deux comparutions devant le Sanhédrin, mais une seule. Et cette comparution a lieu le matin. Luc veut présenter les faits avec plus de clarté afin de faire ressortir les dispositions des protagonistes de la Passion. Il omet donc un certain nombre de détails que donnent les autres évangélistes. Vous y êtes habitués maintenant, vous commencez à être des grands connaisseurs de Saint-Luc. Hein, vous avez vu comment Luc réécrit, il l'a dit, j'ai voulu composer un récit bien ordonné. Hein, il reprend tout, il simplifie pour nous faire aller davantage, enfin, droit au but, spirituel, théologique. Et c'est ce qu'il fait là. Et ce qu'il met en avant particulièrement, ce sont les dispositions des protagonistes de la Passion. Quand nous verrons l'année prochaine, pour ceux qui voudront continuer d'étudier le Nouveau Testament, quand nous verrons les Actes des Apôtres, nous verrons que le jour de la Pentecôte, ce que le Seigneur viendra renouveler, ce sera les cœurs, la question des cœurs qui sera très très importante. Donc on voit que tout ça est déjà bien présent dans la tête de Saint-Luc. Quelles sont les dispositions des différentes personnes. C'est cela que je voudrais souligner maintenant. Voilà. Alors, il y a deux moments particulièrement sur lesquels on peut s'arrêter. Il y a le triple reniement de Pierre et les violences exercées sur Jésus, les moqueries, etc. Tout d'abord, premier point, il y a l'agonie à Gethsémani. Je passe assez rapidement. Luc est assez proche de Marc et Matthieu avec quelques différences. Saint-Luc ne parle pas de la tristesse de Jésus, comme je vous l'ai dit, il ne va pas s'arrêter, alors qu'on sait bien que Jésus a connu cette terrible tristesse. Il simplifie le récit, trois prières qui sont ramenées à une. En revanche, il insiste sur l'intensité de la prière de Jésus. Jésus qui fléchit le genou, un ange qui vient le soutenir, sa prière qui se fait instante. Voilà. Vous voyez, chez Saint-Luc, il y a vraiment cette idée de parler de l'intériorité de Jésus. Jésus s'en remet au vouloir du Père, avec cette phrase de très grande importance, « Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » C'est un point sur lequel je ne m'arrête pas, parce qu'on fait de l'exégèse, et on ne fait pas de théologie, enfin on en fait indirectement, mais si on faisait de la théologie, on aurait consacré la soirée dessus, parce que ça a été un point capital qui a été souligné ultérieurement, notamment par un grand théologien qui s'appelle Maxime le Confesseur. Voilà, pour ceux qui ont entendu, qui ont suivi les cours de théologie avec le Père Giton, avec d'autres, c'est tellement un ami, Maxime le Confesseur, qu'on parle de Max Conf. Si vous voulez faire, je suis au courant, je connais Max Conf. Oui, bien évidemment, ça c'est chez Super Tom, voilà, Saint Thomas d'Aquin. Voilà, sauf le respect qu'on leur doit. Voilà, Max Conf. Alors que dit Maxime le Confesseur? Je vous le dis quand même, petite parenthèse théologique. En fait, c'est le moment où Jésus nous sauve. Non pas ma volonté, mais la tienne. Voilà, c'est le moment où Jésus vient accomplir le salut de l'humanité. Bien évidemment, le salut, c'est tout un ensemble. C'est comme je viens de le dire, c'est le repas pascal, c'est la mort, c'est la résurrection. Mais le cœur du cœur, c'est quoi? C'est Adam et Ève, c'est l'homme qui a désobéi à Dieu, c'est le cœur de l'homme qui s'est détourné de Dieu, et Dieu qui essaye de reconquérir le cœur de l'homme. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, je vous donnerai un cœur nouveau. Voilà. Et nous arrivons à ce moment où le cœur de l'homme parfait, Jésus, vrai Dieu, vrai homme, où enfin un cœur se tourne vers Dieu pour dire, non pas ma volonté, mais la tienne. ce que Dieu attendait depuis toujours. Vous me direz, il y a eu Marie. Autre question théologique, là c'est saint Anselme, par anticipation du mystère de la croix, Marie a pu consentir pleinement à l'œuvre de Dieu. Mais l'accord de la volonté humaine avec la volonté de Dieu, c'est ça le salut. Voilà. Donc, je passe malheureusement trop vite dessus, mais dans votre méditation pour la semaine sainte, l'évangile de Saint-Luc et dans tous les évangiles, reprenez bien cette parole qui est d'une grande importance. Nous disons dans notre Père, que ta volonté soit faite. Deuxième point, non plus Jésus, mais Pierre. Pierre qui est chez le grand prêtre. Pierre qui renie Jésus à trois reprises. Pierre le fait de manière délibérée. Personne ne l'a obligé à rester sur place. Vous me direz, c'est un peu cruel d'écrire ça. Parce que quand même, il a eu le courage, lui, de suivre Jésus, alors que les apôtres sont partis en courant. Voilà. Est-ce que Pierre est conscient de son rôle de chef de communauté? Est-ce qu'il y a aussi cet amour extraordinaire de Pierre pour Jésus? Dans l'évangile, on le voit bien. Pierre est vraiment celui qui est attaché à Jésus. Mais Pierre est venu, eh bien, il est dans cette situation de fragilité et il renie. Aussitôt après le troisième reniement, nous connaissons bien la scène, un coq chante et Jésus, se retournant, fixe son visage sur lui. Pierre se met à pleurer. Encore un détail propre à Saint-Luc. Si vous avez l'occasion de vous acheter un évangile, enfin des synoptiques, faites-le, parce que c'est très intéressant. Et là, on voit Luc qui parle des larmes de Pierre. Pierre se souvient de l'annonce du triple reniement. C'est-à-dire qu'il y a une mémoire, quelque chose qui va remonter et qui va occasionner ces larmes. Alors, attention à la lecture, une lecture spirituelle trop rapide. Les larmes, c'est le repentir. Comme c'est beau, Pierre. Voilà. D'ailleurs, c'est un petit peu ce que dit saint Augustin, saint Ambroise dans le commentaire que je vous ai mis. Mais en réalité, nous savons bien que quand nous avons été pris à défaut dans un moment très intense, on a trahi quelqu'un, ou ça peut être des larmes de désespoir, des larmes de dépit, des larmes pleines d'amertume. Nous n'en savons rien. Nous n'en savons rien. Je pense qu'il n'y a que Pierre qui le sait, et peut-être Jésus, sûrement Jésus. Mais ce qui est certain, c'est que Pierre a été encore capable de se laisser atteindre par le Seigneur. Même si ce sont des larmes d'amour propre blessé, il a été capable de se laisser atteindre. Voilà. La parole du Seigneur trouve encore un écho en lui. À la place de la mémoire, qui est très importante. Troisième figure, troisième moment, c'est pendant la comparution de Jésus devant Pilate. Les grands prêtres, les chefs et le peuple qui réclament avec force la condamnation de Jésus. Une détermination qui est soulignée par cette demande un peu hallucinante. Ils demandent la relaxation de Barabbas. À mort cet homme, relâche-nous Barabbas. Barabbas, c'est un meurtrier, il est connu comme tel. Jésus n'est pas un meurtrier. C'est Barabbas qui est relâché. Donc Saint-Luc, de façon assez concise mais assez claire, montre qu'il y a un choix clair qui est fait de vouloir tuer Jésus. Le lecteur, je parle peu du lecteur, mais c'est bien aussi de dire comment nous réagissons. Le lecteur perçoit l'injustice et l'absurdité de cette situation. Une espèce de contraste entre les deux. On se dit, mais pourquoi ? Luc est assez bref dans son récit, il ne décrit pas, comme saint Jean, les chemins tortueux par lesquels, qui vont conduire Pilate à abandonner Jésus au bon vouloir des grands prêtres. Luc conclut laconiquement, il relâcha celui qui avait été jeté en prison pour sédition et meurtre. Vous voyez, celui qui avait été jeté en prison pour sédition et meurtre. Luc dit bien, celui qui va être libéré, c'est quelqu'un qui a tué. Et il insiste en ajoutant, celui qu'il réclamait. Voilà. La concision, quelquefois, frappe beaucoup plus que beaucoup d'explications. Celui qu'il réclamait, vous l'avez demandé. On va libérer Barabbas. Responsabilité des grands prêtres, des chefs et du peuple. Quatrième figure, celle d'Hérode Antipas, dont le comportement, évidemment, est lamentable, et qui nous permet de comprendre aussi ce que veut dire le refus de Jésus. Vous voyez, c'est très intéressant d'avoir ces différentes figures les unes à côté des autres. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Mais voyez qu'on dit, mais quelle unité on peut faire dans tout ça? Mais déjà, on voit qu'il n'y a pas vraiment d'unité, que les comportements sont très différents. Pilate envoie Jésus à Hérode. Alors, il y a des gens qui disent, mais Hérode, c'est celui qui était là à la naissance de Jésus. Alors, vous avez bien compris que non. Voilà, c'est Antipas. Il y a Hérode Archélaüs, Hérode Antipas, Hérode Philippe, Archélaüs qui a été débarqué par les Romains, qui est à Jérusalem, Hérode Philippe qui est dans le nord, et Antipas, c'est la Galilée. Voilà, et Jésus qui est de Galilée et de la juridiction d'Antipas. Pilate, lui, envoie Hérode en se disant j'essaye de me décharger de ce sujet difficile, et Hérode, eh bien, il voit une bonne occasion de réaliser son désir de le voir. On le voyait au moment de la mission des apôtres, Hérode voulait voir Jésus. Saint-Luc nous dit, il est tout joyeux, parce que il voulait voir qui était ce personnage un peu étonnant, il voulait le voir faire des miracles, mais évidemment, il n'obtient rien. Évidemment, on le comprend bien. Peut-être que Hérode, lui, à la différence de Pierre, n'a pas de mémoire. Je parlais de la mémoire tout à l'heure. Pierre n'a pas oublié ce que Jésus lui a dit. Hérode, lui, il semble avoir oublié qu'il a fait enfermer et décapiter Jean-Baptiste, qui lui demandait d'accueillir la parole de Jésus. Voilà. Hérode n'a pas de mémoire. Hérode n'est pas disposé non plus à écouter Jésus. La seule chose qu'il attend, c'est que Jésus fasse des miracles. On pourrait traduire que Jésus fasse des tours de passe-passe. Mais cette traduction est juste, j'allais dire presque théologiquement, parce que quand Jésus était en Galilée, on voit des gens demander à Jésus de faire des signes, des miracles, c'est-à-dire fais-nous des passe-passe pour montrer que c'est vraiment la puissance divine. Mais ça veut dire qu'ils ne comprennent pas le sens de la mission de Jésus. Et déjà, les évangélistes nous disent « Jésus ne fit pas de miracle » parce qu'il n'y avait pas de foi. Évidemment, encore moins dans cette scène lamentable, vraiment, d'Hérode qui ne comprend rien à la situation et qui s'imagine que Jésus va faire un miracle. Encore une fois, Saint-Luc, qui est un bon narrateur, va marquer le contraste entre l'attitude d'Hérode et celle de Jésus. Il l'interrogea avec force parole, mais il ne lui répondit rien. Et les véhémentes accusations des grands prêtres et des scribes noient le silence. On imagine la scène, comme je vous le disais tout à l'heure, essayez de vous représenter les choses. Ces accusations véhémentes noient le silence de Jésus qui ne fait que révéler la vanité du comportement d'Hérode. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces quatre figures? Jésus, Pierre, les grands prêtres, les chefs et le peuple, et Hérode. Eh bien, on voit que la grande question qui est posée, c'est celle de l'accueil des paroles de Jésus. L'accueil de la personne de Jésus. Quel est le sérieux avec lequel nous essayons de comprendre ce qui se passe? La parole de grâce, souvenez-vous, n'a pas été accueillie à Nazareth. Vous savez, à la synagogue de Nazareth, tout le monde écoutait Jésus, était stupéfait des paroles de grâce qu'il prononçait, mais à la fin, on rejette Jésus et on veut même le tuer. Parole, le faire tomber du haut de la colline, en général, faire tomber quelqu'un du haut de la colline, c'est ce qui a été fait pour Étienne ou pour Jacques, c'est le préalable, en effet, à la lapidation. La personne se casse les os et ensuite on la lapide. À quand même se rendre compte que le contexte dramatique est là dans l'Évangile. Pareil pour les villes au bord du lac. Jésus qui se lamente sur les villes au bord du lac. Chorosaïn, voilà, Capharnaüm. Jésus s'est lamenté sur les villes au bord du lac, parce qu'elles n'ont pas accueilli l'évangile. De la même manière, il a pleuré sur Jérusalem. Tu n'as pas voulu mon offre de salut et de paix. C'est ces scènes que j'avais relevées la dernière fois, qui sont extrêmement fortes. Qu'est-ce que Jésus porte dans son cœur, quand je le disais tout à l'heure, désir, angoisse, mais aussi cette immense déception. Les villes n'ont pas voulu. Et, c'est très important, Luc qui insiste sur la question du temps, elles n'ont pas reconnu le temps, elle n'a pas reconnu le temps où elle fut visitée. Eh bien, toute cette déception de Jésus, face à ces refus réitérés de sa parole, eh bien, en entrant dans sa passion, Jésus dévoile les conséquences jusqu'ici cachées de tous ces refus. Et là, on voit se réaliser la prophétie de Siméon au temple. Vous voyez comment l'évangile est construit de façon très unifiée. Jésus doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. C'est pour ça que j'insiste sur l'attitude des personnages. Quelle est leur attitude, leur pensée, quelles sont leurs pensées intimes? Eh bien, Jésus, au moment de sa passion, va dévoiler ce qui habite le cœur des uns et des autres. Alors, nous avons, avec la scène de la crucifixion, nous voyons de nouveau d'autres types de comportements sur lesquels je vais m'arrêter. Donc, troisième partie, Jésus en croix. Saint Luc réécrit, là aussi, avec son style, les événements de la passion. Je l'avais déjà dit dans des séances précédentes, Luc parle peu de l'hostilité de la foule et ne souligne pas la détresse de Jésus. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il y ait eu des gens hostiles, mais ce n'est pas l'accent que donne Saint Luc. Il faut lire les quatre évangiles ensemble pour se figurer les choses, historiquement. Mais quelle est l'intention de Saint Luc? Eh bien, c'est ce que nous essayons de découvrir. Nous ne voyons pas non plus chez Saint Luc le vocabulaire apocalyptique qui caractérise la version de Matthieu. Vous vous souvenez, chez Saint Matthieu, il y a l'éclipse, le soleil qui se cache, le tremblement de terre, les morts qui sortent, enfin, un vocabulaire apocalyptique. Voilà. Ce que Saint Luc met en avant, comme dans le récit du dernier repas, c'est l'attitude intérieure du Seigneur. Et, comme dans la scène du procès que nous venons de voir, le comportement des protagonistes. Alors, on va voir d'abord Jésus et ensuite les foules. Alors, dans le récit de la Passion, Jésus n'est pas épargné par les moqueries. Luc en rapporte quand même. Elles viennent des chefs, ceux qui lui sont le plus hostiles, des soldats et l'un des malfaiteurs. Mais ces railleries, Luc ne s'y arrête pas, elles préparent davantage l'intervention du bon larron, inattendu dans un tel contexte. De la même manière, ce que Saint Luc retient des dernières paroles de Jésus, ce ne sont pas des paroles de détresse, comme chez Saint Marc et Saint Matthieu, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» ou alors chez Saint Jean, « j'ai soif ». Mais ce sont des paroles d'intercession et de miséricorde. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ou encore « aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et des paroles de confiance, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Si on ne retient que les paroles de Jésus, il y a des paroles qui sont au-delà, d'une certaine manière, de la souffrance. Pardonne-leur. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Entre tes mains, je remets mon esprit. La scène du bon larron est propre à Saint Luc. C'est intéressant parce qu'on retrouve cette manière propre à Luc de mettre en avant à la fois des humbles, des pauvres, des païens. On retrouve l'attention de Saint Luc pour ce qu'on appelle les Anaouim, les pauvres d'Israël, les humbles, dont Marie donne l'exemple le plus éclatant. Ici, c'est un brigand, et c'est à lui que Jésus adresse ses dernières paroles avant de mourir. Ce sont les paroles d'espérance. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Hein. On retrouve cet aujourd'hui qui est propre à Saint-Luc. Hein, par contraste, tu n'as pas reconnu le moment où tu étais visité, hein, mais en revanche, Zachée, aujourd'hui le salut est entré dans ta maison. Hein. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Là aussi, le lecteur est comme interpellé, comme on dit, parce que est-ce que nous savons reconnaître le temps où nous sommes visités, ou est-ce que nous sommes prêts à entendre le fait qu'aujourd'hui, le salut nous est donné, que le Seigneur nous donne accès à la vie éternelle. Tournons-nous vers la foule. Alors, notre comment dire, une spiritualité un peu populaire, traditionnelle, on a pris l'habitude de présenter la foule hein, comme une foule méchante et hostile, hein, massivement opposée à Jésus. Chez Saint Luc, cette expression d'hostilité de la foule est assez limitée. On a vu précédemment que d'ailleurs les foules, le terme les foules, qui est un terme assez vague, les foules sont en grande partie favorables à Jésus. Il ne faut pas oublier que c'est parce que les foules sont favorables à Jésus que les chefs n'avaient pas, les grands prêtres n'avaient pas voulu l'arrêter. Ils avaient peur du peuple. Chez les autres évangélistes, on apprend qu'ils vont faire le procès pendant la nuit pour éviter que la foule ne soit au courant. Donc vous voyez, sortons de ces visions un peu... des fois très traditionnel, mais pas très juste. Hein, que, tellement traditionnel que ça a donné lieu à une certaine époque, au Moyen-Âge, dans les pays où il y avait des pogroms, on disait, voilà, les foules juives qui se sont déchaînées contre Jésus, ça a fait du mal. Et quand on lit attentivement l'Évangile, on se dit, mais oui, mais au fond, où est l'hostilité des foules? Il n'en est pas question, au moins chez Saint-Luc. Hein. Il n'est pas dit que la foule insultait Jésus. Il y a une foule qui suivait, et Saint Luc dit, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Et après la mort de Jésus, je cite, les foules qui s'étaient rassemblées pour ce spectacle, voyant ce qui était arrivé, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Voilà. Peut-être que, si elle se frappait la poitrine, certaines personnes partageaient ce sentiment exprimé par le centurion. Sûrement, cet homme était injuste. Apprenons à nuancer notre lecture de l'Écriture. Nous n'honorons pas le Seigneur si nous disons ces foules, ce sont des gens très méchants contre lui. Je crois que nous honorons davantage le Seigneur si nous voyons que, d'après saint Luc, Jésus a touché le cœur de plusieurs d'entre eux. Qu'il y avait des gros méchants, mais que la situation était plus nuancée que ce que nous disons d'habitude. Ce qui intéresse Luc, c'est donc de voir comment, face à la croix, tous sont touchés d'une manière ou d'une autre. Et là, on a un texte de Zacharie, du prophète Zacharie, qui est très éclairant, hein, le même texte que saint Jean va citer dans son évangile, que Luc ne cite pas, mais qui est en arrière-fond. Le premier effet de la mort du juste, ça a été de faire naître, je cite, « un esprit de grâce et de supplication. En ce jour-là grandira la lamentation dans Jérusalem. » On le verra d'ailleurs aussi au début des Actes des Apôtres. Le Seigneur veut que le cœur se brise devant la révélation du péché. Se brise de la façon la plus positive, c'est ce qui sera dit au jour de la Pentecôte. D'entendre cela, ils eurent le cœur brisé. Il fait naître un esprit de grâce et de supplication. Enfin, je termine, quatrième partie, la mise au tombeau. Une scène qui est brève et qui valorise, encore une fois, comme nous l'avons vu dans nos quatre parties, l'attitude des personnages. Je retiens deux. Tout d'abord, Joseph d'Arimathie, membre du conseil, quand même le conseil qui a conduit les opérations, et comme le dit saint Luc, il n'avait pas donné son assentiment à la condamnation de Jésus, ce qui montre encore une fois qu'il n'y a pas des blocs uniformes, mais il y a une certaine diversité par rapport à Jésus. Il n'y avait pas d'unanimité chez les chefs. Saint Luc nous dit que c'était un homme droit et juste, hein, encore une fois. Alors c'est plus à son sujet que pour le larron qu'on peut parler des anawim, hein, ces fameux humbles hein, les pauvres d'Israël, hein, qui attendaient la rédemption d'Israël. J'ai cité Marie tout à l'heure, mais Zacharie, Élisabeth, Siméon, la prophétesse Anne, voilà, Marie bien sûr, hein, Joseph d'Arimathie, hein, ceux qui accompagneront Jésus parce que eux, de l'intérieur, sont vraiment accueillants à sa parole. Alors c'est intéressant aussi de voir l'aspect davantage juridique. Hein, sa position de membre du conseil lui permet d'accéder à Pilate. Les choses fonctionnaient de cette manière. Hein, il a pu obtenir l'octroi du corps de Jésus, qui, je vous le rappelle, appartenait à l'empereur, le corps des condamnés, qui était retiré aux familles pour qu'il n'y ait pas d'excitation populaire. Hein, ceux qui étaient condamnés, le corps était confisqué par les Romains, par l'armée romaine, donc il faut obtenir l'octroi du corps de Jésus. Et Joseph le fait déposer dans un tombeau neuf, hein, c'est saint Matthieu qui nous dit que c'était sa propre tombe. Voilà, vous voyez comment les personnages dans le récit accompagnent Jésus, vous vous souvenez, la montée à Jérusalem, je vais montrer comment l'aveugle, hein, qui devenait disciple au moment où Jésus allait monter à Jérusalem, eh bien, permettait au lecteur de s'intégrer, de dire « moi aussi, je me mets à sa suite ». Eh bien, là, on voit Joseph d'Arimathie, eh bien, on partage ses sentiments, hein, cette discrétion, mais il est là quand il le faut pour accompagner Jésus. Voilà. Deuxième figure, ce sont les femmes. Hein, saint Luc signale les femmes qui étaient venues avec lui, hein, remarquables par leur piété, qui constituaient un groupe à part. Il en était question au chapitre 8. Hein, il est souvent question des femmes chez saint Luc, plus que dans les autres évangiles, mais il y a ce groupe précis qui suit Jésus, hein, qui l'accompagnait de leurs biens, etc., de leur soutien. Eh bien, ces femmes ont été témoins de son ministère, puisqu'il en est question pendant son ministère, elles étaient là avec lui, témoins de son ministère. Elles sont restées près de Jésus pendant la crucifixion et jusqu'à la mort. Hein, saint Luc nous dit qu'elles regardaient, c'est-à-dire qu'elles sont témoins de la mort, très important, témoins du ministère, témoins de la mort. Et pendant l'ensevelissement, hein, saint Luc nous dit, elles regardèrent le tombeau et comment son corps avait été mis. Elles sont donc témoins de la mise au tombeau. Un détail qui sera de grande importance pour les événements qui suivront. Le témoignage des femmes, elles l'ont vu, elles l'ont entendu, elles l'ont vu, elles savent qu'il est mort, elles ont vu qu'on l'a mis au tombeau. C'est avec ce regard des femmes, témoins, que nous quittons Jésus, que nous quittons la scène de la Passion et que nous sommes dans l'attente. Le récit va fonctionner dessus. Donc nous restons dessus en attendant. Hein, c'est pour vous donner envie de venir à la fois suivante, parce qu'on ne va pas en rester là. On ne va pas en rester là. Enfin, moi, je ne peux pas en rester là. Voilà. Hein. Donc, gardez... Pardon ? Entre-temps, on n'aura eu pas que vous aurez l'explication à ce moment-là. Je ne vous dis rien, vous découvrirez. Vous verrez. Hein. Vous verrez. Mais on ne peut pas en rester là. On est comme ces femmes, hein, qui ont la foi. Mais voyez comment jusqu'au bout, hein, cette attitude intérieure que saint Luc met tellement bien en avant est très importante pour l'enchaînement des événements. Voilà. Alors, conclusion. Eh bien, une lecture attentive du récit, hein, de la Passion chez saint Luc, hein, nous conduit à nous défaire de l'idée d'une opposition franche et uniforme des Juifs face à Jésus. Tous les comportements humains sont au rendez-vous. Hein, de l'entêtement d'Hérode à la foi du bon larron. Hein. Joseph qui soutient mais qui se cache. Pierre qui essaye de suivre mais qui va quand même renier. Les grands prêtres. Mais voyez, même cette foule, on se rend compte que cette foule, il y a ceux qui disent des choses méchantes sur Jésus et ceux qui se frappent la poitrine. Hein. Et c'est ça l'évangile. Et l'aujourd'hui du salut, ça veut dire qu'il y en a qui sont déjà en train d'accueillir cette parole de grâce. Saint Luc est l'évangile de la miséricorde, et l'évangéliste de la miséricorde. Ça, c'est très important. On l'a vu avec le fils prodigue. Le Seigneur ouvre toujours un chemin de pardon pour le pécheur repenti. le repentir. Je me permets une petite comparaison avec saint Matthieu. Évidemment, la miséricorde, l'offre de pardon, le salut sont très présents chez Matthieu. Chez Matthieu, il y a quelque chose de plus apocalyptique, de plus vigoureux. On voit le Seigneur qui apparaît comme un maître, et il y a ce jugement qui est déjà en train de s'opérer. Chez Saint-Luc, voilà. Chez Saint-Luc, il y a davantage l'insistance sur la possibilité, l'offre d'une grâce qui est sans cesse offerte. Bon, il faut nuancer ce que je dis, évidemment, chez Matthieu, c'est aussi chez Matthieu qu'on voit Jésus prendre son repas chez Lévi et dire « Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs ». Mais voilà, il y a quand même cette nuance, cette importance de la miséricorde, le Fils prodigue, le Seigneur est là qui nous attend, et à chaque moment, on peut aller vers lui, et la diversité des comportements des personnes le montre bien. Cela concerne aussi le lecteur, que Saint-Luc, avec son art consommé du récit, fait entrer parmi les protagonistes des événements. Mais pour cela, pour comprendre que le salut nous est offert, eh bien, il faut regarder comme les saintes femmes. Souvenez-vous, je vous ai dit, les femmes qui regardaient. Mais par quoi commençait l'Évangile ? Par les témoins oculaires, ceux qui ont vu, ceux qui ont été les témoins, ceux qui ont gardé mémoire. Question de la mémoire dont je vous ai parlé, ils ont gardé mémoire des événements, les pragmata. Saint-Luc dit « Mon évangile, je l'ai construit sur le témoignage de ce qu'ont vu les témoins des événements de ce que Jésus a fait. » Il faut que nous-mêmes, nous acceptions de voir, de garder mémoire pour que la parole fasse son cheminement pour avoir part au royaume. Regardez, gardez mémoire. Là aussi, vous verrez qu'il en sera question à la prochaine séance. Donc rendez-vous pour la séance numéro 8 si vous voulez avoir la clé de tout cela. Voilà, y a-t-il des questions ou des remarques ? Oui.
Une petite question. La scène se passe le samedi soir avec un repas pascal alors que la Pâque est le samedi.
Alors, j'ai volontairement évité, puisque le temps est limité, la question de la datation. Voilà, la question de la datation qui pose des problèmes extrêmement difficiles.
Jean dit autre chose,
voilà, Jean dit autre chose, à tel point qu'on pense que pour Jean, il rappelle un repas, qui est un peu plus tôt dans la semaine. Il y a une question de calendrier juif. Alors attention, parce que le jour de la Pâque, le repas est pris la veille. Seulement, dans tous les cas, pour Jésus, on arrive quand même à 24 heures plus tôt. Ce qui a conduit certains exégètes à penser que Jésus suivait un autre type de calendrier, je parle de calendrier essénien. Voilà. Il faut bien se rendre compte que le judaïsme, ce que nous appelons le judaïsme avec notre regard d'aujourd'hui, c'est quand on dit le judaïsme, si je vous pose la question, on va dire une religion, la religion qui est fondée sur la loi de Moïse. Ceci n'est pas forcément faux, mais ne correspond pas non plus à la réalité telle qu'elle était vécue. Il y avait des courants extrêmement variés et quelquefois même un petit peu contradictoires. J'ai nommé les Esséniens, qui n'étaient pas que à Qumran, mais il y avait des établissements esséniens un peu partout. Et donc, voilà, des différentes branches du judaïsme. Est-ce que Jésus, avec ses apôtres, a suivi un autre calendrier ? On voit aussi chez Saint-Luc la volonté à la fois de marquer une continuité, mais quand même cette nouveauté. Luc est le seul, comme je l'ai dit, à mentionner l'institution de l'Eucharistie après le repas pascal. Ce qui est un peu, ce qui pose aussi beaucoup de questions. Voilà. Mais de fait, le calendrier, déjà à l'intérieur de Saint-Luc, pose des problèmes. Mais ensuite, si on le met avec les autres, c'est sûr. Oui ?
Une question, enfin j'en ai deux. La première, c'est par rapport à les apôtres qui ont suivi Jésus.
Oui.
Vous avez dit que Pierre a suivi Jésus. Je me demande si Jean aussi n'a pas suivi Jésus, puisqu'au fond, on a dit dans les évangiles que Jean était au pied de la croix. Si c'est retrouvé au pied de la croix, ça suppose qu'il a suivi.
Oui, tout à fait. Mais alors, c'est très juste. Il y a deux choses. Il y a la reconstitution historique, qui de fait, je pense, extrêmement importante. Je suis tout à fait d'accord. C'est par certains côtés ce que fait le père Lagrange dans son livre sur Jésus, ce que fait le pape Benoît XVI, mais avec une tonalité très scripturaire malgré tout. Voilà, on a besoin de faire le calendrier des événements. Ensuite, il y a le récit, le texte. Là, je me suis intéressé au texte. Il est évident que quand Saint-Luc nous parle de il y a une seule prière de Jésus, on peut croire, d'après les autres évangélistes, qu'il y a eu trois moments où Jésus il est, renouvelle sa prière. Voilà. Donc, Luc ne parle pas de Saint-Jean qui va au pied de la croix. C'est pas son... On peut en parler, c'est intéressant. Je pense qu'en effet, Jean était au pied de la croix. Enfin, personnellement, je pense que ça me semble assez cohérent. Ça me... Des éléments qui ne sont pas très nombreux, mais on peut penser que Jean était bien au pied de la croix, parce que ce que dit Saint-Jean a quand même une grande importance. Mais c'est pas chez Saint-Luc. Voilà. Donc, je crois que c'est intéressant d'entrer dans l'univers de l'évangéliste, hein, de dire, un peu comme, j'allais dire, pour donner une comparaison, évidemment, il y a une seule vie de Jésus, il y a quatre évangiles, ça veut dire quatre manières de voir Jésus. Je ferai la comparaison avec, il y a une seule vie spirituelle, c'est la vie dans l'esprit, mais il y a le Carmel, il y a les bénédictins. Quand je suis chez les bénédictins, c'est pas le moment où je vais faire la même chose que dans le Carmel. Au Carmel, sainte Thérèse d'Avila, elle dit une heure d'oraison le matin, une heure le soir. Chez les bénédictins, saint Benoît dit il faut que la prière soit brève. Voilà, il dit ça à côté de l'office divin qui va prendre beaucoup d'heures. Donc on accepte chez les bénédictins de jouer le jeu des bénédictins, de dire que ça va être l'office divin, les psaumes, beaucoup de psaumes, et puis une prière personnelle qui va être plus... voilà. Mais c'est un peu pareil chez les évangélistes. Il y a évidemment une vie de Jésus, et c'est Jésus qui nous intéresse, mais chaque évangéliste va me permettre d'accéder à des aspects qui lui sont propres. Et c'est ce que nous faisons dans notre lecture.
On dit que Luc, c'est Paul, et Marc, c'est Pierre.
Voilà, alors, l'idée chez les pères de l'Église, et puis dans la tradition, c'est de montrer que les quatre évangélistes se rattachent à la tradition apostolique, aux apôtres. Alors, Marc et Pierre, personnellement, je pense que le lien, pour moi, est assez clair. Marc se rattache à Pierre. Et Saint-Luc, il y a un certain nombre d'éléments, hein, notamment par la théologie, qui mettent une filiation avec Pierre. On dit aussi que Luc a reçu le témoignage de la Vierge Marie, voilà, hein, tous les récits de l'enfance, voilà. Mais du côté apostolique, en effet, on fait le lien avec Paul, j'ai dit Pierre, et vous avez raison, oui, le Luc avec Paul, tout à fait. Oui. Et le Paul, de fait, mentionne Luc, dans les Actes des Apôtres, il y a un lien marqué par Saint-Luc, un lien avec Paul.
Oui. Alors, tous les aspects personnels de la méditation de Jésus, je suis angoissée, etc. Qui a pu raconter ça à Luc ?
Ah ben, je pense que il y a un passage qui me semble très important dans le que rapporte Luc, c'est les 40 jours que Jésus passe avec ses disciples. Se dire que Jésus ressuscité et avec l'intention de former les apôtres. La scène du désert, on avait évoqué ça. Hein, Jésus était tout seul dans le désert, les tentations. Bon. Une catéchèse, je crois qu'il faut se dire humblement et pudiquement que nous n'avons pas un accès matériel, direct, évident, un peu voyeuriste que nous voudrions avoir, c'est-à-dire dans notre mentalité contemporaine, qu'il y a nécessairement la médiation de la citation de l'Ancien Testament, de la recomposition de l'évangéliste, tout ça est recomposé. Mais ça nous donne accès à une vérité que Jésus a dû énoncer aux apôtres. Voilà. Saint-Luc a composé de telle sorte qu'en le lisant, nous puissions avoir accès à cette vérité. Matériellement, comment ça s'est passé, ça nous échappe, ce n'est pas important. Nous savons que Jésus, en célébrant cela, à travers ses mots, à travers son attitude, à travers ce qu'il a expliqué après la résurrection, a permis aux apôtres de comprendre qu'il y avait véritablement une Eucharistie, alors même que le mot n'a pas été employé le jeudi saint au soir, mais c'est bien ça la signification. Et je crois qu'il faut bien prendre en compte le fait que ce que Jésus a dit aux apôtres excède, saint Jean le dit, excède très largement ce qui nous est rapporté. Quelle est l'expérience des apôtres? Ils ont reçu l'Esprit Saint, il faut prendre ça en compte quand même.
Pour le
nous dit dans le Tantum Verbum, la foi nous aide à percevoir.
Oui, c'est tout à fait juste. La foi nous aide à percevoir ce que les yeux ne perçoivent pas, ne discernent pas. Et la foi, et je pense, évidemment, les apôtres étaient relativement aveuglés jusqu'au moment de la passion. D'ailleurs, même après la résurrection, ils n'arrivent pas à le voir. Mais il faut se rendre compte du choc que représente la Pentecôte. Jésus le dit, l'Esprit vous conduira jusqu'à la vérité tout entière. Et toutes les paroles que Jésus a dites reprennent vie. Vous savez, j'avais une tante qui était religieuse, enfin plusieurs qui étaient religieuses dans le nord de l'Afrique, et il y en a une qui les avait rapporté des fleurs du désert. Je crois qu'on les a toujours. Ce sont des fleurs, quand on les voit, on les mettrait à la poubelle parce qu'elles sont toutes grises et dures, comme ça. Et quand on les met dans l'eau, c'est extraordinaire.
Elles sont lyophilisées.
Elles sont lyophilisées. Ben, je pense que les apôtres, ils comprenaient pas grand-chose de ce que Jésus disait. C'était complètement lyophilisé, c'est ça. Et l'Esprit Saint, la comparaison avec l'eau, l'image vaut ce qu'elle vaut, mais l'Esprit Saint va faire fleurir ce que Jésus avait dit. Il avait déjà dit les paroles, mais elles étaient sèches pour les apôtres. Avec la Pentecôte, ils disent, ça y est, tout prend sens. Ça va être l'expérience des disciples d'Emmaüs. Non, mais il y a besoin de l'Esprit Saint, il y a besoin d'être accompagné par Jésus. Oui, une dernière et puis on y va. Là,
parce que... Par rapport à la foule, oui. Vous avez dit qu'il faudrait avoir conscience que la foule était bienveillante. En fait.
J'ai pas dit qu'elle était bienveillante. J'ai bien dit qu'il y en a sûrement qui étaient très méchants. J'ai dit une variété.
D'accord, super. Mais la finalité, elle est là. C'est qu'on a quand même condamné Jésus et on a relâché un brigand. Ça suppose qu'au fond, il y en avait plusieurs qui devaient être malveillants. En fait.
Alors attention, vous avez remarqué, regardez sur la page 2, les grands prêtres, les chefs et le peuple. On ne parle pas de la foule.
Nous, on s'est habitué à dire la foule de façon univoque. La foule à l'entrée à Jérusalem. La foule devant le palais de Pilate. La foule au pied de la croix. Et c'est beaucoup plus fluide. Encore une